Privatiser les lignes, vous avez commencé à répondre à une question, Johan, de cette étude qui a été diffusée par Mobilidé et l'Agence départementale de développement économique.
Oui, justement sur la question des transports et des déplacements, l'Agence départementale de développement économique et touristique des Hautes-Alpes et le collectif Mobilidé ont publié une étude. Elle indique que les Hauts-Alpins sont prêts en majorité à changer leurs habitudes de déplacement. 94% des sondés considèrent que les mobilités douces ont du sens, mais qu'il manque des équipements, des infrastructures, des services. Alors une question, quelles actions pour développer la desserte ferroviaire, les transports en commun, faciliter l'accès aux stations de sport d'hiver et désenclaver le territoire?
Et puis il y a aussi cette fameuse question du train pendulaire qui a été soulevée par Mobilidé. Alors on va commencer par vous, Capucine Mounal.
Alors, est-ce que vous pouvez reformuler la question parce que j'ai pas suivi.
Quelles actions pour développer la desserte ferroviaire, faciliter l'accès aux stations et le fameux train pendulaire?
Alors, comme l'a dit Monsieur Giraud, il faut qu'il y ait il faut que ça soit vraiment l'État et la région qui fassent en sorte que le train soit développé. Donc déjà, moi je suis pour un service public qui soit non ouvert à la concurrence, que ça reste un véritable service public.
Donc pas de privatisation.
Pas de privatisation. Ensuite, c'est multiplier les trains, c'est multiplier la cadence et faire en sorte aussi qu'il y ait une coordination avec le train et le bus et que le bus ne soit pas une concurrence au train, mais bien un complément, et faire en sorte aussi que on fasse les premiers kilomètres et les derniers kilomètres, qu'on puisse faire en sorte de prendre le train. Je veux aussi faire en sorte que les gares.
C'est le plan Avenir Montagne. C'est le plan Avenir Montagne sur ces derniers kilomètres. Comment on force la région, justement, à ne pas remplacer les lignes par les bus? C'est ce qui se passe notamment du côté des Alpes de Provence, hein, avec le train d'Épine.
Quand le PACA, ça sera la dernière région à vouloir développer le train et qu'elle verra que les autres régions le développeront, elle sera forcée de suivre ce qui se passe aussi au niveau national.
Joël Giraud.
Bon, moi je pense très sincèrement que ce que l'on peut faire d'intelligent d'une manière générale en montagne, vous avez cité le plan Avenir Montagne, effectivement, j'ai proposé des appels à manifestation d'intérêt pour financer de l'ingénierie, pour faire de la mobilité, et d'ailleurs, là, comme du Briançonnet, il y a répondu. Voilà. Tout simplement pour avoir un véritable plan de transport, qui soit un plan de transport coordonné, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle en France, puisque les plans de transport locaux ne sont pas coordonnés avec les plans de transport régionaux. Deuxième chose, la SNCF a une obligation, qui est une obligation européenne, d'être un système d'information ouvert, c'est-à-dire quel que soit l'opérateur, du point A au point B, c'est-à-dire du premier au dernier kilomètre, avec une obligation de résultat qui est parfaitement assumée par l'opérateur allemand, par l'opérateur italien, mais qui n'est pas assumée par la France. Donc il faut contraindre la SNCF, désormais, à le faire. Troisièmement, il faut que nous ayons effectivement une densification de la desserte. Et l'idée d'un train pendulaire tel qu'elle a été exprimée est une idée qui est intéressante et qui peut trouver sa place dans un programme expérimental sur les trains à hydrogène.
Sauf que certains craignent que ce train pendulaire ne soit pas un train domicile-travail, mais un train simplement touristique.
Non, moi je ne veux pas d'un train touristique, je veux d'un train qui par exemple soit stationné à Briançon et à Gap ou à Vennes, peu importe quel endroit, et qui se croise au milieu du département et qui fasse la navette permanente pour que... C'est des trains, vous savez, qui ont une centaine de voyageurs, donc ça ne marche pas lorsqu'il y a 600 gamins qui descendent à Gap, par exemple, pour les études. En revanche, ça marche très bien en pleine journée, et ça désengorgerait cette Nationale 94, qui n'en peut plus d'être à la fois un axe saturé et un axe extrêmement dangereux. L'actualité nous le prouve vraiment tous les jours, et de manière assez dramatique. Donc oui, il y a des possibilités. Il faut qu'on soit sur une expérimentation de ce type-là, parce qu'en montagne, c'est important. Et il faut qu'on ait absolument aucun tabou sur ce qui est la façon de relier les zones de chalandise comme les stations de sport d'hiver aux gares ou aux pôles de mobilité. C'est la raison même du plan Avenir Montagne, c'est la raison même pour laquelle on financera jusque y compris des transports qui sont des transports par câble de façon à accéder aux stations. C'est la bonne solution à mon avis écologique que prônent les Suisses, les Allemands et les Italiens depuis longtemps et que la France n'a jamais vraiment prôné. Pour autant, c'est un transport public.
Avec un billet unique à 9 euros par exemple pour la
C'est la bonne chose, je dirais, qui peut arriver. Et sur la privatisation, permettez-moi de vous dire une chose. J'ai suivi la privatisation italienne, je dirais, vraiment au jour le jour. Aujourd'hui, grâce à cette privatisation et cette introduction d'opérateurs privés sur le réseau italien, c'est moins 20% de tarification, c'est-à-dire moins 20% de coûts pour les usagers. C'est plus 30% d'offres sur l'ensemble de la péninsule italienne. Et je me pose même plus la question quand je mets ma voiture à Hulst pour aller à Turin. le train est cadencé et c'est pas une boîte publique qui assure le train régional entre Oulx et
Oui, mais c'est pas le cas à Briançon.
C'est pas le cas à Briançon, donc il faut
c'est
que
pas
ce
cas
soit
dans les
pareil.
En général.
Et la privatisation de la ligne Marseille-Nice, c'est là encore plus 20% de trains qui vont et moins 30% de coûts. La région PACA a eu raison de faire cela sur la ligne Marseille-Nice où on n'arrive plus seulement à circuler.
On nationalise les coûts et puis on privatise aussi
les coûts. Pas du tout.
On poursuit avec l'agriculture. L'agriculture, un thème très important dans les Hautes-Alpes, notamment les élevages bovins, les élevages ovins également, la production fruitière, 2600 hectares hein, dans la partie sud-ouest du département, le long de la Durance et du Buëch. J'aimerais d'abord commencer sur un point, je le disais, élevage bovin, élevage ovin. Et bien sûr, c'est ce thème qui revient tout le temps, le thème du loup. Le protocole loup, aujourd'hui, autorise le prélèvement de 118 canidés. La profession dit que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on propose ? Joël Giraud, c'est vous qui ouvrez ce débat rapidement sur le loup.
D'accord. Alors rapidement, effectivement, les choses vont changer pour une seule et simple raison, c'est qu'à la demande des éleveurs, je suis arrivé à faire comprendre qu'il fallait que les éleveurs soient associés au comptage des prédateurs. Ça va changer, pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on a des chiffres scientifiques qui sont contestés et qui disent que finalement, la population de loups n'est pas forcément viable. Eh bien, grâce à cela, si, comme je le pense, parce que très honnêtement, pour circuler beaucoup dans le département, je vois beaucoup de canidés qui ne sont pas des chiens domestiques traverser la route, eh bien, si comme je le pense on dépasse le seuil de viabilité, cela permettra justement de pouvoir plus prélever sur le territoire au bénéfice d'une agriculture mais aussi au bénéfice psychologiquement de l'implantation, parce qu'on a de plus en plus de gens qui ne veulent plus s'implanter parce qu'ils ont la peur au ventre tout simplement de la prédation.
Capucine Mounal, vous représentez au sein de la NUP également les écologistes, et on le sait, les écologistes sont contre le prélèvement du loup aujourd'hui. Quel est le message que vous portez au niveau de la prédation?
Alors, déjà, moi, je voudrais rappeler la règle verte, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus que ce que la nature peut reconstituer. Et moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une concertation. Enfin, je ne vais pas trancher la question entre les pros et les anti-loups. Déjà, pour moi, il faut dépolariser cette question et faire en sorte qu'il y ait une réponse qui soit commune et qui soit le plus dans le consentement le plus large possible. Donc, pour moi, en fait, c'est de mettre en lien et faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les différents acteurs, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs et les défenseurs de la nature et tout ça. Je rappelle que le loup, il est quand même une espèce protégée.
Espèce protégée par la Convention de Berne, mais il y a déjà eu des tentatives du côté de la préfecture de mettre autour de la table justement les éleveurs et en même temps la SAPN et d'autres associations environnementalistes, et ça a toujours été un échec. Comment on parvient à... Comment vous proposez de
parce
parvenir
que c'est une question qui prend du temps, et je pense que c'est important aussi de mettre du temps dans certaines concertations et trouver une solution ou plusieurs solutions qui pourraient aider à aller dans ce sens.
Le but, pas c'est le prélèvement.
Aujourd'hui, il se fait le prélèvement il y a un quota qui se fait pour le loup.
118 loups.
Oui. Donc, moi, je ne vais pas me dire si je suis pour ou si je suis contre. Pour le rôle que j'aimerais avoir, c'est vraiment réunir ces différents acteurs et renouer, faire en sorte qu'il y ait une solution qui se trouve. Il faut aussi savoir que il y a des éleveurs qui comprennent qu'il faut aussi vivre avec le loup, et je comprends aussi qu'il y a des éleveurs justement qui ont peur et que le loup fait beaucoup de dégâts et que c'est une part de revenus qui s'envole pour certains éleveurs, et je ne peux pas trancher entre ces deux éleveurs-là.
L'arboriculture et la viticulture, cette question, Johan.
Oui, on se souvient de la période de gelée noire en 2021, les craintes aussi pour 2022. Comment mieux protéger les agriculteurs au Alpin ?
Joël Giraud, en une minute.
Alors, en une minute, déjà, l'assurance dommage a été considérablement modifiée. Elle n'était pas solidaire, elle n'était pas suffisante. Nous avons mis un terme à cela, et j'ai rencontré tous les arboriculteurs du sud de la circonscription qui sont très, très heureux que cette assurance ait été mise en place. Donc, première chose. Deuxième chose, là encore, il faut qu'on arrive à une équité sur le plan européen, et je vais en terminer dans la minute prévue. L'équité sur le plan européen, c'est de faire en sorte que l'ensemble des utilisations, on va dire, d'un certain nombre de produits soient réglementées de manière efficace, c'est-à-dire de la même façon dans tous les pays européens, avec les mêmes obligations de sortie d'un certain nombre d'insecticides, notamment qui sont des insecticides extrêmement nocifs pour la population, mais qu'on n'ait pas de dichotomie entre un pays qui l'applique à 100% comme nous et un pays qui ne l'applique pas et qui pour autant exporte sur le territoire national. Donc il faut réguler ce marché de manière efficace.
Capucine Mounel, par rapport à cette protection des agriculteurs alpins, par rapport aux insecticides aussi?
Oui, nous on est pour sortir de tout ce qui est de pesticides, toute source de pollution, et aussi un système de protectionnisme pour justement faire en sorte que nos producteurs ne soient pas pénalisés et impactés par les autres pays européens.
Mais comment? Comment vous les protégez?
En légiférant sur le fait que en les taxant beaucoup plus lourdement, ceux qui ne produisent pas au niveau français, et accompagner nos producteurs français, les producteurs locaux.
Est-ce qu'on sera autosuffisant?
Il faudra. C'est un but à atteindre, l'autosuffisance, mais pour moi, avant d'atteindre cette autosuffisance, il faut vraiment faire en sorte que les aides soient mieux fléchées sur les productions les plus locales, les plus écologiques, et à taille humaine. Il faut aider ces producteurs-là.
C'est pour ça qu'on a financé un projet alimentaire territorial sur l'ensemble du département des Hautes-Alpes, et ça, c'est l'avenir.
Sauf que vous êtes contraints tous par la politique agricole commune menée par l'Union européenne.
On a effectivement des contraintes de la PAC, mais pour autant, j'allais dire que ces projets alimentaires territoriaux ont quand même, et dans la période de la Covid singulièrement, ont permis de faire en sorte de découvrir qu'on pouvait avoir des productions locales de qualité et qu'on n'était pas obligé de manger des tomates en hiver.
Par rapport au bio et au circuit court, cette question, Claudine.
Alors le bio, effectivement, c'est l'avenir, dit-on. Mais est-ce réellement vrai lorsqu'on sait qu'aujourd'hui le marché du bio stagne, que le bio permet aussi de moins produire par ses méthodes de production? Donc l'autosuffisance visée est-elle réalisable? Et pour les ménages, c'est aussi une question de prix pour nourrir sa famille. Alors quel avenir pour les Hautes-Alpes quand on sait qu'il est classé premier département bio de France?
Capucine Mounel, par rapport à cette question de production et de consommation bio?
Alors, il est vrai que c'est plutôt ceux qui sont les plus aisés d'entre nous qui peuvent accéder à une nourriture bio. Donc ça, c'est un constat que je déplore. C'est pour ça que nous défendons une cantine bio et locale dans toutes les écoles pour que les enfants puissent avoir accès à ce type de nourriture plutôt saine et exempte de pesticides. Et donc ensuite, pareil. C'est les plus aisés qui doivent être dans la sobriété, et pour les plus démunis, il faut faire en sorte de leur donner les moyens d'appliquer cette sobriété. Donc ça passe par le pouvoir d'achat, on augmente les salaires, on bloque les prix aussi de certains produits de première nécessité, et en fait on joue sur la marge des distributeurs.
Joël Giraud, bio et circuit court?
Écoutez, effectivement, moi je fais le constat que déjà l'agriculture alpine a fait un coming out spectaculaire, parce que pour être premier département bio de France, il faut avoir réfléchi à quelque chose qui est des productions de qualité et saine sur l'ensemble du territoire. Alors après, effectivement, cette filière, elle marque le pas, mais elle marque le pas, j'allais dire, parce que aussi il y a beaucoup de circuits courts à haute valeur environnementale qui sont des circuits courts qui sont aussi bons que le bio, parce que vous pouvez manger du bio, mais vous pouvez manger aussi du bio importé. Moi, j'ai des souvenirs lorsque j'imposais à la cantine de l'Argentière d'avoir des agneaux en provenance de l'abattoir de Guillès, parce que ça me semblait important d'avoir ce circuit court-là, qu'on me reprochait de ne pas prendre de la viande, et on me montrait des viandes avec dessus marqué GmbH, c'est-à-dire SARL en allemand, qui venait directement d'Allemagne par le circuit à Ankara des importateurs turcs. Et on me disait que c'était bio et ça remplissait de camions. Donc le bio n'est pas non plus toujours, je dirais, la sanctification de la vertu. Il faut faire attention à ça. Du bio importé, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on accentue, je le disais, au travers des projets alimentaires territoriaux, des plateformes locales de distribution, et on le fait, je dirais, au travers des PAT notamment, la possibilité d'avoir en circuit court et sans intermédiaire, ce qui est quand même intéressant, au travers des plateformes de distribution, un produit qui est un produit accessible à tous. Parce que ça n'est pas... Alors, aider les gens au travers d'un chèque alimentaire, je suis relativement pour, mais pas au niveau de la baisse générale des produits, parce que ça profite autant à des gens qui ont de l'argent qu'à des gens qui n'en ont pas. Donc les gens qui peuvent se payer du bio, qu'ils le payent, et qu'ils le payent au prix normal. Les gens qui ne peuvent pas le faire, les chèques alimentaires que l'on va proposer dans le projet pouvoir d'achat vont permettre justement, en les orientant et en les ciblant comme il faut, de faire en sorte d'avoir un nouveau marché pour des personnes qui sont en difficulté financière.
Au niveau de l'immigration, on en parle énormément sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes. 1442 personnes n'ont pas été admises sur le territoire alpin, c'était en 2020, contre 1543 en 2019. Le maire de Briançon disait il y a quelques semaines, on doit traiter ces questions pour éviter les extrêmes. D'abord cette question sur les frontières, Johan.
Oui, à tous les deux, quelles sont vos propositions pour juguler, mettre fin à cette crise migratoire et comment éviter que des migrants ne dorment à la gare SNCF, dans une église ou sous une tente de Médecins Sans Frontières comme c'est arrivé cet hiver.
Et puis il y a un autre volet aussi, la PAF, la police aux frontières, qui a alerté il y a quelques jours sur son manque d'effectifs, trop de départs, pas assez d'arrivées. Sur les 10 renforts qui ont été annoncés, seuls 3 sont désormais du côté de Montgenèvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fois pour ces personnes qui arrivent sur le territoire, comme le disait Johan, et qu'est-ce qu'on fait aussi pour la frontière? On commence avec vous, Joël Giraud.
Bien. Alors, c'est un sujet qui est un sujet particulièrement dramatique. Pour être clair, sur les personnes, alors je vais commencer par les forces de l'ordre, puisqu'il faut un équilibre, je vais dire, entre surveillance, forces de l'ordre de l'autre côté et humanité de l'autre côté. C'était d'ailleurs le texte asile-immigration tel qu'il était prévu initialement, où j'avais fait quelques amendements qui ont évité tout simplement la procédure des non-admissions, mais également qui ont retranscrit le droit européen sur les personnes vulnérables, notamment les femmes avec enfants ou les femmes enceintes. Donc, à travers de cela, il faut absolument qu'il y ait un climat de confiance qui revienne, parce que si les effectifs ne sont pas suffisants à la police frontière à Montgenèvre, mais au commissariat de police de Briançon aussi, il y a une difficulté, c'est parce qu'on entretient une certaine hostilité de la population vis-à-vis des forces de l'ordre, et c'est vraiment pas souhaitable. Voilà, je le dis clairement.
Je vous vois réagir, Capucine Mounal.
Oui, moi je suis pas d'accord.
J'ai écouté les syndicats de police, j'ai écouté ce que dit la police aux frontières, et il y a une problématique, qui est une problématique d'acceptabilité dans la population. Je crois qu'au bout d'un moment, un citoyen qui assure la sécurité des autres doit être considéré et pas forcément faire l'objet, j'allais dire, d'un montré du doigt. Pour autant, et je l'ai dit et je le répète, pour ce qui est des filières d'immigration, effectivement, il faut les combattre à mort. Moi, j'ai été dans des trains entre Turin. Oui, les filières d'immigration clandestine. J'étais à la gare de Turin, puisque je prends le train quand je vais à Turin. Des passeurs sont allés mettre des gens dans le train et ils m'ont montré à quel endroit il fallait qu'ils descendent. C'était en plein hiver. On leur expliquait qu'il fallait descendre à Bardonnay, qu'il fallait prendre le col de l'échelle. Voilà. Alors, je leur ai dit, faites pas ça parce que vous allez tous mourir là. Donc, faites ce que vous voulez, mais prenez plutôt un itinéraire sécurisé qui est celui du Montgenèvre, même s'il y a des forces de l'ordre en plus grand.
Vous avez dit ça à des clandestins?
J'ai dit à des clandestins de ne pas prendre l'itinéraire de l'hiver où il y a des avalanches dans tous les coins. C'est pas possible. Je leur ai expliqué que voilà, c'était quelque chose de dangereux. C'est tout. Je ne veux pas que des gens aillent se faire tuer parce qu'ils ont payé 1000 euros.
Mais personne ne veut que des gens se fassent tuer.
Je le dis simplement. Oui. Et une fois que des gens sont à Briançon, déjà, il faut qu'il y ait des procédures de droit classiques, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français qui sont faites de manière normale avec une procédure de recours, puisqu'il n'y a plus ces procédures qui consistaient à remettre les gens de l'autre côté de la frontière sans forme de procès, ce qui n'est pas admissible en soi. C'était la non-admission. C'est pour ça que je me suis battu contre la non-admission, parce qu'elle ne protège pas les gens en droit. Et puis, il y a quelque chose qui me fait effectivement diverger des politiques qui peuvent être menées à l'heure actuelle, c'est que je crois que les personnes qui sont en situation d'hébergement d'un certain nombre de migrants notamment et autres, doivent être tout simplement accompagnées sur le territoire par les services de l'État. Il n'est pas normal qu'on soit accompagné uniquement dans quelques pôles et pas dans des pôles qui sont à proximité de la frontière.
Avez-vous interpellé la préfète à ce sujet-là sur les UQTR?
J'ai interpellé le ministre de l'Intérieur directement.
Capucine Mounal, oui. par rapport à l'immigration justement et cette question qui a été posée, ces questions qui ont été posées pour à la fois les effectifs de la police aux frontières et l'arrivée de personnes exilées sur le territoire alpin.
Alors là, c'est pareil, il y a une sorte de polarisation entre ce qui se passe à la frontière avec la police et aussi avec les bénévoles qui accueillent les exilés. Et donc, en fait, Pour moi, c'est pareil, c'est une question de point de vue. Pour moi, la question migratoire, les exilés ne doivent pas dépendre du ministère de l'Intérieur, mais bien de dépendre du ministère des Affaires étrangères. Donc déjà, pour considérer les personnes exilées de manière humaine. Ensuite, pour ce qui se passe à la frontière, c'est complètement illégal. Parce qu'on est dans dès qu'on passe la frontière italienne et française, on est dans l'espace Schengen. Les personnes qui passent la frontière peuvent demander à leur pays de leur choix l'asile, le droit d'asile. Le droit d'asile n'est pas respecté à la frontière. Ensuite, c'est un accueil digne des exilés et faire en sorte que la préfète puisse aussi accompagner ces lieux d'accueil au lieu de les harceler et de faire en sorte qu'il y ait justement cette confrontation qui existe entre les bénévoles et la
préfète. Elle n'a jamais harcelé personne. Je suis désolé.
Tu veux me tutoyer maintenant? Mais non. La préfète, je suis désolée, quand elle vient et puis qu'il y a cet harcèlement sur les bénévoles, il existe bel et bien, il y a des enquêtes en ce moment qui se font sur les bénévoles, je suis désolée, ça c'est le procureur et c'est la préfète, la défenseur des droits, elle a été saisie d'ailleurs. Et il y a Sébastien Nadeau qui était celui qui dirigeait la commission d'enquête parlementaire sur les questions migratoires a aussi interpellé la préfète à ce sujet-là.
Vous proposez de revenir sur la directive Dublin 3, une directive qui dit aujourd'hui...
Si je peux me permettre, Sébastien Nadeau n'a pas interpellé la préfète. Il a fait un article 40 du code de procédure pénale contre la préfète, article 40 qui n'a pas eu de suite. Voilà, je me permets de...
Peut-être, mais la démarche, elle n'est pas anodine. S'il l'a fait, c'est qu'il a estimé qu'il avait des raisons de le faire.
J'ai été pendant des années le responsable des opérations spéciales.
Vous avez tout fait dans votre vie, monsieur.
Mais non, mais je veux dire, j'ai fait 40 articles de procédure pénale par jour.
Capucine Mounel, on revient sur la directive Dublin 3. Comment on fait? Parce que c'est une directive qui est européenne.
Alors, comme c'est une directive européenne et que moi je suis candidate pour être députée à la France, je ne sais pas si je peux avoir un poids face à cet accord-là, mais j'œuvrerai dans le sens qu'il faut revoir cet accord-là et renégocier aussi ce qui se passe à la frontière à Calais avec les Anglais et la France. Pour moi, les Anglais doivent prendre aussi leurs responsabilités et ne pas laisser toute la responsabilité à la France.